Terminer l'époque de l'austérité, des déficits maîtrisés. Avec la crise sanitaire, le refrain a changé pour soutenir l'économie. Le gouvernement plaide aujourd'hui pour une hausse de la dépense publique.
Nous continuons à soutenir tous les salariés et toutes les entreprises qui sont touchées par la crise sanitaire et par la crise économique. Et nous continuerons de faire le maximum.
Depuis l'apparition de la Covid et avec le confinement, l'exécutif dépense sans compter.
Ce budget est un budget historique.
Avec Bruno Le Maire, on s'est battu pour avoir 30 milliards dans le plan de relance et un tiers du plan de relance pour la transition écologique.
La culture bénéficiera d'une dotation exceptionnelle de 2 milliards d'euros sur les 100 du plan de relance.
Les aides pleuvent de tous les côtés, alors les chiffres sont vertigineux. 500 milliards de dépenses supplémentaires pour surmonter la crise sanitaire. Une dette à 117% du PIB, une stratégie qui fait écho à la philosophie d'Emmanuel Macron.
L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte.
L'opposition, elle, s'inquiète et alerte. Hier, dans les colonnes du journal du dimanche, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth, s'alarme.
Attention à la bombe à retardement. Évidemment, il faut s'adapter à la situation exceptionnelle. Mais c'est un budget fantôme, car on ajoute chaque jour des dépenses supplémentaires.
Alors jusqu'à quel point l'État peut-il vivre au-dessus de ses moyens? À terme, qui va rembourser cette dette abyssale? Cet argent est-il bien investi dans l'économie française?
Vivre à tous les deux en ces temps de Covid, de crise sanitaire, cela sert-il vraiment à quelque chose d'élaborer un budget? Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est sage de faire des prévisions budgétaires alors que la situation sanitaire est elle-même incertaine? On parle de reprise de l'épidémie.
Ah, il est fondamental de faire un budget. C'est-à-dire, c'est un élément clé non seulement de l'économie mais de la démocratie. Après, on les corrige les budgets. C'est-à-dire que cette année, pendant le confinement et après le confinement, on a fait des lois de finances rectificatives. Ouais. C'est-à-dire, on a adapté le budget. A posteriori, d'ailleurs, ça s'est plutôt mieux passé que ce qui avait été prévu, puisqu'à un moment donné, on avait porté le déficit budgétaire jusqu'à 225 milliards d'euros, et après, on l'a redescendu à 220 milliards d'euros. Sachant qu'au départ, il avait été voté à 90 milliards d'euros. Donc, effectivement, le budget de 2010, qui a été voté en 2019 pour 2020 n'aura pas été appliqué, mais il fallait le voter. Celui de 2021 qui est voté, qui va être voté, on doit espérer qu'il sera appliqué, mais si la pandémie reprend,
on
ajustera.
Bon, donc on est dans l'incertitude, mais quand même, on est certain d'un chiffre.
Un chiffre éloquent, 4%, hein, c'est l'ampleur de la dépense publique engagée dans le budget 2021. C'est 4 fois plus que ce qui avait été fait après la crise financière de 2008. C'est 2 fois plus qu'après le plan de relance de Chirac en 1975. C'était le premier choc pétrolier. Pour parler prosaïquement, on pourrait dire qu'on explose les compteurs. Christophe Rameau, jusqu'où peut-on aller? On pensait qu'on n'atteindrait pas ces dimensions-là. On s'arrête là?
Vous savez, le jour d'aujourd'hui est très important. Il risque de rentrer peut-être dans les annales. Comme un des moments clés.
Aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui.
Aujourd'hui, lundi.
Oui, présentation du projet de loi de finances.
Oui.
Il y a un confrère qui est loin d'être un agité du bocal, Xavier Timbaud, membre de l'OFCE, qui, dans une interview, indique que ce plan de relance, en fait, c'est un plan de relance sans relance. Et il conclut en disant que ce projet de loi de finances, tel qu'il est présenté aujourd'hui, ça va peut-être marquer le suicide de ce gouvernement, le suicide de cette politique. Alors je m'explique. Ce qui est prévu, le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire, même si on peut discuter à la marge, le chômage partiel, l'aide aux entreprises au cœur de la crise. Mais là, l'enjeu, bien entendu, nous sommes en train de connaître la plus grande crise économique. Oui. 800 000 emplois perdus en 2020.
Ça, tout le monde est d'accord. Oui.
Le pouvoir d'achat des ménages a baissé de 3% rien qu'au premier semestre 2020. C'est la plus grosse chute depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a une demande qui s'effondre. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Eh bien en fait, il continue comme avant. C'est-à-dire que ce qu'il nous présente dans le projet de loi de finances, c'est la poursuite de la politique dite de l'offre, qui est en fait un euphémisme pour dire politique du capital. C'est-à-dire l'idée qu'en subventionnant le capital, les entreprises, ça va permettre de les redynamiser. Or, ce dont manquent les entreprises, aujourd'hui, d'abord et avant tout, c'est d'un problème de débouché. On a eu un effondrement de la consommation. Et donc, quand on regarde en détail, si vous voulez, le gouvernement fait preuve d'opportunisme. Il saisit la crise du Covid pour aller encore plus loin dans son programme libéral qu'il met en œuvre depuis maintenant trois ans.
Oui, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Écoutez, ce qui s'est passé au premier semestre était quelque chose qui était inédit. C'est-à-dire que c'était un choc exogène, comme disaient les économistes. Le problème, ce n'est pas que les entreprises ont manqué de débouchés, c'est que pendant 55 jours, on les a empêchés de travailler. Donc ce qui a manqué au pays, ce n'est pas de la demande, c'est du travail. Et donc dès qu'on mettra et on remettra le pays au travail, l'activité économique reprendra. Comme l'a dit le président de la République, nous allons nous déconfiner. Nous ne sommes pas encore déconfinés. Mmh. Nous ne sommes pas sûrs d'être totalement déconfinés. Les restaurateurs de Marseille, ce qu'il manque, c'est pas de débouchés, c'est de la possibilité d'accueillir des gens. Mmh. C'est pas la demande, c'est pas en distribuant du revenu aux Marseillais qu'on résoudra le problème des restaurateurs de Marseille, c'est en les laissant travailler. Et donc je crois qu'un des enjeux, effectivement, c'est de libérer l'économie, de laisser les entreprises travailler. Quant au plan de relance, là où je serais assez d'accord, c'est que justement, il ne répond pas à ça. C'est-à-dire qu'il ne répond pas au fait que les entreprises ont détruit une partie de leurs fonds propres, une partie de leur substance, une partie de leur substance financière. À la différence d'une guerre, parce que le président de la République avait parlé de guerre, il n'y a pas eu de destruction de capital physique. C'est-à-dire, les routes sont toujours là, les ponts sont toujours là, les usines sont toujours là, mais il y a eu une perte de capital financier. Les entreprises, pendant 55 jours, n'ont pas pu dépenser, n'ont pas pu fournir, n'ont pas pu travailler, n'ont pas pu produire. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et donc, effectivement, le plan est à côté de la plaque, mais pas parce qu'il c'est pas un plan de demande, c'est parce que c'est un plan qui ne reconstitue pas les fonds propres des entreprises.
Alors, à propos précisément des emplois, faites-nous écouter quelqu'un.
Geoffroy Roux de Bézieux, hein, qui oui. considérait jusqu'ici que la réduction de la dette était une priorité, il a absolument changé d'avis, on le regarde.
Ce qui peut nous inquiéter, c'est l'endettement. Mais au fond, pardon de dire ça, ça a peut-être choqué certains, l'endettement en valeur absolue, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la capacité à rembourser. Vous savez, le Japon vit avec 200% de dette depuis des années. Et donc, c'est plutôt, est-ce qu'on est capable de refaire de la croissance? Quelle est la croissance potentielle de l'Europe? C'est ça la vraie question, plutôt que la dette.
Alors quand on entend le patron des patrons, Christophe Rameau, on se dit qu'on peut s'endetter encore très longtemps et de façon spectaculaire. Où est-ce qu'on s'arrête? Où on peut aller?
La dette aujourd'hui, dans le contexte actuel, qui est absolument inédit bien entendu, c'est pas un problème, c'est la solution.
Mais ça a été un problème politique pendant des décennies.
Pendant des décennies, les libéraux ont agité ce chiffon rouge de la dette pour dire qu'il faut moins de dépenses publiques. Et il faut privatiser, il faut confier au privé qui est le seul efficace, etc. C'est la cohérence des libéraux qui est respectable, qui n'est pas la mienne. Moi, mon point de vue, ça consiste à dire qu'il faut enfin assumer. Vous avez parlé, vous avez, juste avant nous, invité quelqu'un qui parlait de la fatigue. La grande fatigue de nos sociétés, c'est le décalage complet qu'il y a entre la promesse égalitaire proclamée, nous sommes égaux, et cette inégalité effroyable qui existe dans la sphère économique. Le président de la République, dans deux beaux discours, le 12 mars et le 13 avril, avait dit qu'il allait se réinventer. Eh bien, en fait, il ne se réinvente pas. C'est ça, c'est bien ça le problème. Donc, soyons concrets. Aujourd'hui, on a 100 milliards de consommation en moins parce qu'il y a de l'épargne en plus. Qui a épargné? Ce sont, bien entendu, les ménages qui en ont les moyens, donc plutôt les plus aisés. Et donc, qui a souffert énormément de la crise? Les précaires en particulier, les fins de CDD, les fins d'intérim, qui n'ont pas été tous ces contrats qui n'ont pas été renouvelés. Et donc il y a une mesure par exemple qu'on aurait pu prendre. Les jeunes, bien entendu, qui sont souvent concernés par les contrats précaires. Une mesure à minima, c'était de distribuer à tous les ménages qui ont, aux 30% des ménages les plus pauvres, dans lesquels il y a les jeunes, dans lesquels il y a les précaires, de distribuer un chèque relance d'un montant de l'ordre de 1 000 euros, à moduler après sur la taille des familles, sur le niveau de pauvreté. Eh bien, ça coûte, vous savez combien ça coûte? Ça coûterait moins de 10 milliards. 10 milliards, c'est le montant, rien que le montant des baisses d'impôts sur la production, sans compter la baisse de l'impôt sur les sociétés, sans compter, vous savez, il y a quelque chose d'anecdotique. Vous savez que le gouvernement a décidé, malgré tout, malgré la crise, d'offrir aux 10% de ménages les plus aisés la baisse de la taxe d'habitation. Donc ça va faire près de 3 milliards au moins.
Trois remarques par rapport à ce qu'on vient de dire.
Une question sur la dette et sur qui rembourse.
La première, juste sur l'épargne et tout ça. Les livrets de caisse d'épargne sont en train de se remplir. Et ce n'est pas les gens riches qui ont des livrets de caisse d'épargne. C'est la classe moyenne et la classe et les plus défavorisés. Oui, parce que les gens riches, ils ont déjà atteint le plafond et ils ne peuvent pas augmenter.
C'est sûr que les bénéficiaires du RSA n'ont pas de livret A.
Oui, j'entends bien, mais la classe moyenne, elle a des livrets A, et même dans la plupart du camp, ils sont à leur plafond, et donc ceux qui sont en train de souscrire en ce moment, c'est des gens qui ne sont pas au plafond. Donc ce n'est pas les gens les plus riches. Deuxième élément, sur ce qu'a dit Yaroud Bézieux sur la dette, il a dit l'important c'est quand il faudra la rembourser. Donc je rappelle que depuis 1815, la dette dans ce pays, comme dans tous les pays occidentaux, est perpétuelle. Donc on ne la rembourse pas. Ce que l'on paie, c'est des intérêts. Et donc le véritable enjeu, c'est la masse d'intérêts que l'on aura à verser. Quand la dette est très développée, pour que ces intérêts ne soient pas très importants, on maintient des taux d'intérêt très bas. Et ça, ça perturbe l'économie. C'est ça qui désagrège l'économie, c'est d'avoir des niveaux de taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt qui ne représentent pas la réalité de ce que doit être le mécanisme d'épargne et d'investissement. Je renvoie tous les auditeurs téléspectateurs à un livre culte, Le capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Dans ce livre, Thomas Piketty explique que le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance. Et il dit, le problème du capitalisme, c'est qu'en ce moment, il est supérieur, le taux d'intérêt au taux de croissance. Eh bien, je rejoins Piketty. Le problème, c'est que le taux d'intérêt n'est pas égal au taux de croissance. Le taux d'intérêt pour permettre à l'État de s'endetter est inférieur au taux de croissance. Et donc, on ruine les générations futures avec des taux d'intérêt qui ne sont pas à leur bon niveau.
Alors, attendez, on va en reparler tout à l'heure des générations futures. Mais d'abord, évoquons le Ségur de la santé, l'argent qui devait être investi dans les hôpitaux. Où en sommes-nous?
Dans l'hôpital public, donc, ce Ségur de la santé s'est déroulé au mois de juin. Il a mis sur la table 7,3 milliards d'euros qui sont répartis comme suit. 5,75 milliards dédiés à la revalorisation des salaires des soignants et un peu plus d'un milliard et demi aux investissements dans le système de la santé. Ça, c'est un pansement sur une jambe de bois, c'est ce que disent les syndicats. Et quand on regarde les chiffres, c'est difficile de leur donner tort. En tout cas, il y a trois indicateurs. Cet argent, par exemple, qui doit servir à revaloriser donc les salaires des aides-soignants, par exemple, c'est ce que dit le gouvernement. On va prendre le cas d'une infirmière française, par exemple, qui gagne 1700 euros net par mois. Avec ce Ségur de la santé, elle va toucher 183 euros net supplémentaires. C'est très en dessous de la moyenne européenne, c'est très en dessous de la moyenne de l'OCDE. À titre de comparaison, par exemple, une infirmière ou un infirmier allemand va toucher 2380, c'est 2600 euros pour un infirmier ou une infirmière espagnole. Cette enveloppe, elle devait aussi permettre de pallier la pénurie de personnel dont on parle beaucoup et aboutir à 15 000 embauches. Et là aussi, on est très, très en dessous du problème, parce qu'aujourd'hui, il y a 100 000 postes qui sont vacants en France, dans les établissements de santé. Et puis enfin, le Ségur doit également financer la création de lits supplémentaires. Ça aussi, on en parle beaucoup, de 4 000 lits supplémentaires à l'hôpital. Mais 4 000, c'est pile le nombre de lits qui ont été supprimés en France en 2018. 4 200 lits, pour être précis. Et c'est aussi en 2018 qu'Emmanuel Macron faisait cette réponse à des infirmières du CHU de Rouen. Elles dénonçaient le manque de moyens alloués à l'hôpital. On regarde.
Faites-moi confiance, c'est qu'il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique.
Il n'y a pas d'argent magique, Christophe Rameau. Est-ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, est-ce que l'hôpital français, est-ce que la France est en train de payer cette doctrine de la maîtrise à tout prix des déficits, y compris quand on parle de la santé des Français?
Oui, d'abord, comment dire, il faut savoir que dans la dépense publique, qui n'est pas une part du tout du PIB, la dépense publique, on l'a toujours en tête, la plupart des gens ont en tête que la dépense publique, ça sert à payer les fonctionnaires. Mais non, les trois quarts de la dépense publique, ça sert à payer des retraites, d'abord et avant tout, plus de 300 milliards, les minima sociaux, le RSA, c'est que 12 milliards, les aides sociales, etc. Et ça sert aussi à payer à plein d'aides aux entreprises. On est en plein dedans en ce moment avec les aides au chômage partiel. Il n'y a qu'un quart de la dépense publique qui sert à payer des fonctionnaires, qui sont d'ailleurs productifs, qui contribuent au PIB.
C'est l'école, d'accord, c'est la santé.
C'est l'école, c'est la santé. Et vous savez, depuis 40 ans, la part de l'emploi public n'a pas bougé en France. On est à 22% de l'emploi total. Ça n'a pas bougé. C'est-à-dire, alors vous allez me dire, mais pourquoi ça aurait dû augmenter? Mais parce que des sociétés, plus elles sont riches, eh bien, plus il est normal qu'elles augmentent la part de l'emploi qui va pour l'éducation, pour la santé, la culture, n'en parlons pas. Et tout ça relève largement de la sphère. Il y a des pays, les pays nordiques, la Suède, le Danemark, ils sont à 24-25%. C'est pas beaucoup plus, mais ça change tout en matière d'emploi public. Et vous savez quoi? La dette publique dans ces pays-là, elle est plus faible, avant même la crise, qu'ailleurs. Et le Japon, vous savez, le Japon est la lanterne rouge de l'emploi public.
240%.
Et 240% avant la crise. On passe à 270.
Christophe Rameau.
Jean-Marc Daniel, vous partagez le constat de Laurent Saint-Martin. L'alternative, c'est ou la dette aux générations futures ou le chômage de masse tout de suite?
Non, je crois qu'on ne peut pas présenter les choses dans ce dilemme. Je pense que, effectivement, là, il faut répondre immédiatement sur le thème. Il faut dynamiser l'économie, il faut accepter la dette. D'ailleurs, c'est prévu par les traités européens, c'est-à-dire les traités européens disent.